Genèse 26, chapitre 26, verset 12. Isaac sema dans le pays. Il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Et il donna au puits le nom d'Ézec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle. Il l'appela Sibna. Il se transporta de là, et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Bon, Étec, ça veut dire dispute, Sidna, ça signifie ennemi adversaire, et Rehoboth, ça signifie largeur, enfin, quelque chose comme ça, voilà. Il remonta de là à Beersheba, l'Éternel lui apparut dans la nuit et il dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point. « Car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, il invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Bon, que de puits. On comprend très bien qu'Isaac, bien sûr, avait de grands troupeaux, et on comprend très bien le besoin d'eau que cela pouvait représenter. C'est pourquoi il nous est parlé de tous ces puits qu'ils ont creusés. Comme Abraham, son père, il était étranger et voyageur dans le pays promis, dans le pays de Canaan. C'est Hébreux 11,9 qui dit « C'est par la foi qu'Abraham vint s'établir dans le pays promis comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car, c'est intéressant, cette petite conjonction de coordination, là, parce que le petit car, il introduit toujours une explication, une raison de ce qu'on vient d'exprimer, car, il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Le père d'Abraham, d'Isaac, pardon, Abraham, homme de foi, avait donc une vision qui dépassait les promesses terrestres du pays de Canaan. Il attendait une bénédiction bien plus merveilleuse. Il attendait la cité qui a de solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est vrai que nous aussi, nous sommes de passage. On s'en rend compte, hein, les années qui passent. Nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Alors, dès le moment où nous sommes repentis, dès le moment où nous sommes convertis à Jésus-Christ, nés de nouveau, nous avons été placés quelque part spirituellement devant le pays de Canaan, hein, devant l'entrée. C'est l'image de notre terre promise, ici-bas. Parce que Canaan, il y a quand même des luttes, il y a quand même des difficultés, mais il y a de merveilleuses promesses aussi Nous, Canaan, c'est aussi l'image de la vie en Christ, de la vie par l'Esprit. Et nous sommes appelés, bien sûr, à manifester notre foi pour entrer, pour vivre réellement dans le territoire de la promesse que le Seigneur nous a fait en Jésus-Christ. Il nous faut combattre, quelquefois, c'est pas toujours facile, mais nous avons une espérance, nous avons une vision, nous attendons la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est dommage que, comme Israël en son temps, certains manquent de foi et s'arrêtent à la croix. Ils vont pas, ils n'entrent pas en Canaan. Ils sont bien installés dans le désert de ce monde. Ils ne goûtent pas, en quelque sorte, on pourrait dire, au puits d'eau vive. Ils ne vivent pas avec l'immense désir de voir Jésus. Amen. Nous le verrons tel qu'il est. Et alors, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Mais cette expression-là, elle est chère à mon cœur. Je serai semblable à lui parce que je le verrai tel qu'il est. C'est quand même des promesses merveilleuses. Les serviteurs d'Abraham, donc, avaient creusé des puits. Ces puits, ce n'étaient pas des bassins d'eau ruisselante, hein, c'était réellement des puits d'eau vive alimentés par des sources souterraines. C'était de l'eau désaltérante, bienfaisante, indispensable à la vie. Et en ce temps-là, bien sûr, en Palestine, il y avait des puits de place en place. Ils étaient utiles pour les sédentaires, mais aussi pour des gens comme Isaac qui voyageait avec ses troupeaux. On comprend très bien que pour trouver aussi la nourriture pour les troupeaux, il fallait bouger, il ne fallait pas rester en place. Eh bien, c'est vrai que c'est une époque où il ne suffisait pas de tourner un robinet pour avoir de l'eau. Hein. Il faut l'épuiser. Il faut l'épuiser. Et on ne gâchait pas l'eau à l'époque quand même, c'était important. L'eau, c'est le composant numéro un de notre corps, hein, vous le savez bien. 2 tiers d'eau environ, hein, ça varie suivant les gens, suivant les âges, bien sûr. Toutefois, c'est vrai qu'il y a quand même des sécheresses intérieures, des besoins, des désirs insatisfaits, que l'eau naturelle ne peut pas étancher. C'est pourquoi Jésus, lui, s'est présenté comme la source d'eau vive. Vous vous rappelez, bien sûr, vous connaissez tout, hein, je ne vous apprends rien. Jean 7, 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, le jour le plus solennel de la fête des tabernacles, Jésus se tenant debout, s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. La promesse est pour nous, hein, comme dit l'Écriture. Il dit ça de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Quand Jésus parle de soif, il prend l'image, bien sûr, vous le savez, d'un besoin fondamental. On a besoin de boire, hein, bien sûr. Mais en Afrique, par exemple, il y a des gens qui savent ce que c'est que de souffrir de la soif. Nous, dans nos pays, en général, on ne sait pas trop. Hein. On ne souffre pas de la soif. Enfin, ou pas beaucoup, on a toujours une bouteille d'eau qui n'est pas très loin, hein, c'est certain. Alors quand Jésus prend cette image-là, c'est une image forte. C'est une image forte si quelqu'un a soif, si quelqu'un en souffre. Bien sûr, c'est l'image de l'être humain qui réalise son vide intérieur et qui aspire à être comblé. Désaltéré, quelqu'un qui a soif réellement, soif de vérité, soif de vie. Et nous savons, bien sûr, nous l'avons expérimenté, que seul Jésus est capable de satisfaire un cœur. Amen. On chantait avant. Jésus satisfait mon cœur. Amen. Alors, la richesse d'Abraham, bien sûr, n'a pas eu que des avantages. Hein, elle a fait on pourrait dire, des envieux. Les Philistins ont bouché les puits pour obliger Isaac à quitter le pays. Ils les ont comblés de poussière. C'est une œuvre perverse. Hein. C'est une œuvre de l'adversaire de faire tout pour que les enfants de Dieu quittent le pays, hein, qu'ils attristent le Saint-Esprit en s'éloignant du Seigneur, en s'attachant aux choses vaines du monde, à ses plaisirs, à sa vanité. Alors, le dictionnaire nous dit que la poussière, ce sont des particules à la surface du sol qui sont le résultat de l'usure due à l'action des vents, à la pluie, à la chaleur. Elle est sale, la poussière. Elle est sale. Elle porte en elle les déchets de la circulation, déchets de la vie sur Terre. Elle détruire des sources d'eau vive, remplir des puits d'eau vive, les remplir de saleté, de poussière, c'est une action malfaisante, bien sûr, une action diabolique. Nous sommes dans un temps où certains remplissent les puits d'eau vive de poussière. Bon, déjà sur le plan de la nature, l'être humain pollue la création de Dieu. Hein, la terre, l'eau, l'air. Il faut noter d'ailleurs qu'historiquement, le mot pollution a une origine religieuse, hein. Profanation, c'est la profanation, la souillure d'un objet ou d'une demeure sacrée par des substances impures, c'est ça l'origine, la pollution. Alors le CNRS, je vais le dire, le Centre national de recherche scientifique, avait écrit il y a déjà un certain temps, pendant longtemps, les hommes se sont peu préoccupés de leur milieu naturel, s'ingérant dans la nature, usant d'elle sans compter, aménageant à tour de bras et rejetant largement effluents, déchets de toutes sortes. Le constat aujourd'hui est dramatique. Des régions entières ont été dévastées et nombre de cours d'eau, lacs et nappes souterraines sont aujourd'hui pollués de par le monde. L'homme profane la création de Dieu. Il met de la poussière, en quelque sorte, dans les puits d'eau vive. Bon, sur le plan de la loi des hommes, les destructeurs de la famille, comme Dieu l'a institué, bah, la destruction de la famille est en cours, hein. La mentalité de Babel, elle est en marche. Faisons-nous un nom, faisons-nous une nouvelle identité. Faisons-nous une nouvelle identité, c'est ça, hein. On en est là aujourd'hui. On peut dire que la permissivité, l'immoralité progresse. Hein, on le voit de nos yeux, on construit sur le sable. Pourquoi notre société, comme Rome en son temps, elle est en train de faire faillite, elle va à sa ruine. Et il y a parmi les peuples plein de destructeurs qui portent atteinte à l'équilibre de la vie, de la famille. Ils comblent les puits d'eau vive. Et le font, on pourrait dire, avec une passion destructrice. C'est une passion chez eux, ils en ont vraiment envie. Les enfants de Dieu sont appelés à garder, à veiller sur les valeurs morales et spirituelles. Malheureusement, bien sûr, il s'est installé un climat de tiédeur, de... Aujourd'hui, que le Seigneur nous fasse grâce. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Le Seigneur l'a dit. Hein. L'iniquité, ben c'est le caractère de ce qui est injuste, c'est le non-respect, la violation de la parole de Dieu. On assiste aujourd'hui à la montée de l'iniquité. On bouche les puits d'eau vive. L'Église subit aujourd'hui une influence, une pression du monde. Absolument énorme. Pour pouvoir y résister, il faudrait qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Et pour pouvoir y échapper, hein, il faut que nos Bibles et nos vies de prière, bien sûr, ne prennent pas la poussière. Bien sûr. Combien de temps pouvons-nous vivre sans manger, sans boire, sans respirer? Hein, vous le savez, c'est la règle de trois, on dit. 30 jours sans manger, hein, 3 jours sans boire. Et 3 minutes sans respirer, c'est une moyenne, hein, c'est pas... il y a des gens qui font mieux. Hein. Bien sûr, ben oui. Mais quand le chrétien se comporte comme le monde, son cœur devient profondément insatisfait, parce qu'il ne trouve aucune satisfaction. Et s'il oublie que Jésus est sa joie, sa paix, il va aller chercher des compensations dans le monde. Et dans le monde, il ne va rien trouver. Vous connaissez ce passage par cœur, bien sûr, de Jérémie 2:13. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Aujourd'hui, je crois qu'il nous faut marcher à contre-courant. Hein. À contre-courant de ce qui se passe. Et puis, il nous faut affirmer les grandes vérités de l'Évangile quand même. Il nous faut du courage. Il nous faut le courage d'un Jérémie. Comme Jérémie l'a fait en son temps. Mais ce n'est pas facile, c'est sûr. On a besoin de toute la force du Seigneur, on a besoin de la puissance de l'Esprit pour cela. Nous avons mis notre foi en Jésus. Nous avons dans notre cœur un puits d'eau vive aussi. C'est ce qui est écrit dans Proverbe 4:23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie sont là dans notre cœur. Il faut veiller, bien sûr, à ne pas y mettre de la poussière aussi. À ne pas combler notre source. Il faut que l'eau vive, il faut qu'elle jaillisse. Alors, il y a les poussières qui sont dues au temps qui passe. Oh là, il n'est pas notre allié, le temps qui passe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Et toutes ces poussières qui sont dues au temps qui passe sont capables de combler nos sources. Ben, il existe l'usure du zèle. La lassitude peut menacer la vie chrétienne. On commence à être actionné par l'habitude et un peu moins par l'amour pour le Seigneur. C'est la poussière, les bruits du monde, l'intérêt excessif peut-être porté à l'inutile. C'est de la saleté dans nos puits. Pour avoir été négligent, vous savez que certains ont abandonné le Seigneur. J'ai remarqué ce passage de Jérémie dans Français courant. Ceux qui se détournent de toi ne sont que des noms inscrits dans la poussière. C'est qu'ils t'ont abandonné, Seigneur, toi la source d'eau vive. Je crois qu'il nous faut prier pour les frères et sœurs qui se sont écartés du chemin, qui se sont découragés. Et certains même qui ont été blessés. Certains ont été blessés. Prions pour les fils, les filles, qu'on pourrait dire prodigues. Que le Seigneur nous aide. On entend quelquefois cette réflexion, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pas péché de faire telle et telle chose? Ah, il faut quand même savoir, est-ce que ça plaît au Seigneur? C'est une autre question qu'on peut se poser. Que ferait Jésus? Ça, c'est toujours la bonne question à se poser. Est-ce que c'est pur ou est-ce que c'est profane? Ah, c'est le problème. Et le Seigneur avait dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est pas rien, C'est pas rien. Alors apparemment, il y a des choses, c'est pas péché, mais est-ce que ça serait pas quelquefois une chose insidieuse, piégeuse? Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Vous connaissez par cœur ce passage-là. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. On entend le témoignage, on entendait encore, nous, dernièrement, de chrétiens qui retombent dans ce qu'ils ont vomi. Alors, pourquoi? Par faiblesse? Par manque de rigueur? Parce qu'ils ne se nourrissent pas suffisamment? Ils ne boivent pas suffisamment à la source? Ils se permettent d'y remettre le nez. C'est incroyable. On entendait un frère qui avait cessé de fumer, là, puis il était en vacances, il avait racheté des cigares. Ah oui, puis après, au bout d'un moment, il s'est aperçu, il dit, ça va pas. Mais on revoit la prix avec ça. Mais il se croyait fort. Vous savez, il ne faut pas se croire trop fort. On a besoin de toujours compter sur la grâce de Dieu et de veiller. Le Seigneur l'a dit, veillez. Et prier. Et ça fait partie, remarquez, de ces dernières paroles, dans le jardin des Oliviers. C'est quelque chose. Il n'a pas dit sauter, danser, faites. Il n'a jamais dit ça, le Seigneur. Hein. Dans les dernières paroles, il a dit veillez et priez. Voilà les choses importantes, c'est important. Alors nous servons un Dieu, un Père, c'est notre Père. Et notre Père, il est saint, à la perfection. Il y a ce qu'on peut s'empêcher, on ne peut pas s'empêcher d'entendre. Dans le monde, quand on travaille, on entend des gros chiartés, des trucs. On en arrive quelquefois, on se prend quelquefois à répéter un truc qu'on a entendu. Mais non, c'est pas bien, on se reprend très vite, mais et quand on est dans les milieux, dans le milieu du travail, hein, c'est pas facile, on entend des vulgarités, des choses. Bon, puis il y a ce qu'on peut éviter d'entendre, bien sûr. C'est que la chute, elle a commencé par un regard. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, bien sûr. Bon, je vous cite ce que disait David Wilkerson en 1988, mais bon, il disait « J'ai prêché de tout mon cœur dans certaines églises en les avertissant de la venue du jugement, en suppliant les saints de se réveiller et de faire appel à Dieu pour être purifiés. L'assemblée semblait même s'ennuyer. » Vous vous rendez compte? Ils ont entendu mon cri déchirant contre les ravages de la télévision. Aujourd'hui, on va dire tous les écrans. Parce qu'aujourd'hui, les écrans, ils font. Les écrans, c'est bien pratique, mais l'abus, disons, l'abus des écrans fait des dégâts, même dans les foyers. Hein. Oh là là. Ils ont souri. Ils ont souri. Voilà. Alors, il dit, je suis parti avec un sentiment de défaite. Et il dit, plus tard, quand je priais dans ma chambre d'hôtel, Dieu me disait, tu n'as pas manqué le but. Voilà. Mais ceux qui écoutaient, est-ce qu'ils avaient reçu la parole? Ils l'avaient entendu. Hein? Et le Seigneur leur avait permis d'entendre. C'était une grâce. Et qu'en avait-il fait? Je ne sais pas. On ne sait rien, c'est le Seigneur qui sait. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà joué au tennis. Ouais. À moins d'être un champion. Hein. Si vous essayez que les balles flirtent avec les lignes, vous avez toute chance de les mettre à l'extérieur. À moins d'être un champion. Non, bien sûr. Non, ce qui déprime la foi, vous voyez, c'est ce qu'on peut quelquefois se permettre de faire ou de dire, sachant que ça ne glorifie pas vraiment le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. On a besoin de sa grâce. Nous avons besoin de l'eau vive qui a été offerte par celui qui s'est assis au puits de Jacob. Il l'offrait à la Samaritaine. Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Non, nous avons vu qu'Isaac, il creuse à nouveau les puits qui ont été comblés. C'est une image très intéressante. Nous avons besoin de creuser à nouveau avec l'aide du Saint-Esprit pour peut-être, quelquefois d'ailleurs, nettoyer notre puits d'eau vive. Pour creuser, il faut déblayer. Il faut déblayer de notre âme les poussières que le temps a accumulées, peut-être, par manque d'attention, par relâchement. Mais ça, c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous aider aussi à nous mettre ces choses en face de nous, par relâchement. Nous avons besoin de mettre dehors les dépôts malsains, les raisonnements qui peuvent être contraires, quelquefois, à la parole de Dieu. Mais quelquefois, on ne s'en rend pas compte. On a besoin que le Saint-Esprit nous mette le doigt dessus. Quelquefois, il y a des propos défaitistes aussi. Alors nous avons besoin d'avoir des propos de victoire, non pas de défaite. Hein. Des propos dénués de foi, c'est embêtant. Et quelquefois, les petites exagérations, vous savez, qui sont des gros mensonges, et qui comblent les puits de poussière nos puits d'eau vive. Cela attriste le Saint-Esprit, c'est sûr, qui veut, lui, nous aider à nous purifier, à agir pour que l'eau monte réellement dans notre puits. La parole de Dieu est pour nous un puits d'eau vive, et nous sommes appelés à puiser de plus en plus profond. Les paroles de Jésus sont des puits d'eau vive. C'est lui qui a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Sont esprit et vie, c'est pas rien. Par la prière, nous sommes en contact avec la source d'eau vive. Même au milieu de nos activités, hein, on peut élever nos cœurs. Au milieu de nos journées, hein, on peut se désaltérer un petit peu. Bah oui, bien sûr. Puis dans nos rassemblements, bah, la méditation de la parole de Dieu, c'est un puits d'eau vive. Les cantiques spirituels sont des puits d'eau vive. Les louanges, les prières des frères et sœurs, amen,
amen,
ils sont des puits d'eau vive, ça fait du bien les entendre. Ça nous rafraîchit. Les dons spirituels, bien sûr, sont des puits d'eau vive. Alors, on ne va pas tarder à terminer quand même, on peut être trop long. Hein. Mais bon. Cette eau vive que nous avons reçue, nous sommes appelés à la partager, à l'offrir. On a un exemple qui est beau, j'aime bien, c'est l'exemple de Rebecca. C'est Rebecca, celle qui va devenir l'épouse d'Isaac. Lorsqu'elle rencontre Eliezer au puits, là, le serviteur d'Abraham, là, est venu chercher une femme pour Isaac. Il est dit qu'avec sa cruche, elle puise. Elle puise courageusement pour lui, et même pour ses chameaux. Alors, pour dire, pour les bêtes, bon, mais non, non, elle a puisé pour lui et pour ses chameaux. Et pour les chameaux, il en fallait. Hein. À chacun, c'est écrit, la manifestation de l'Esprit nous est donnée pour l'utilité publique. Le Seigneur nous appelle à mettre au service des autres, bien sûr, le don que nous avons reçu. Et nous avons tous reçu au moins une cruche. Ah, je ne dis pas que vous êtes cruche, hein. Pas ça. Mais on a tous reçu au moins une cruche. Bah oui, puisqu'à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. Mais pour que cette cruche, bien sûr, puisse apporter l'eau vive, il nous faut la remplir à la source et l'offrir à ceux qui nous entourent. Alors, combien il est important que nous soyons équilibrés, disponibles pour ceux qui ont soif, qui sont fatigués du voyage. Il y a des gens fatigués dans le monde, hein, qui sont usés, certains. C'est notre mission, bah, qu'il n'y ait jamais dans notre puits la poussière de l'indifférence, de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Le Seigneur nous appelle à être un étang qui propose qu'une eau stagnante. Il nous demande pas d'être un glacier, d'être froid, distant, méfiant. À chacun de nous, bien sûr, chacun de nous est appelé à être un puits d'eau vive pour ce monde. Jésus l'a dit à la Samaritaine, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Alors, il est vital que par le Saint-Esprit, il y ait réellement en nous cette source jaillissante, que l'eau monte constamment dans notre puits pour nous donner d'abord le courage, on en a besoin dans ces temps particuliers, la consolation, mais aussi la vigueur spirituelle pour le service de Dieu et qu'elle puisse se déverser autour de nous pour la seule gloire. La seule gloire du Seigneur Jésus-Christ.